Raphaël nous a dit hier que les choses allaient rapidement évoluer en ce qui a trait au sujet, enfin, en ce qui a trait aux tarifs sur l'acier et l'aluminium canadien imposés par les Américains. Eh bien, Raphaël, tu avais raison, puisque aujourd'hui même, Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères du Canada, se trouve à Washington pour rencontrer ses homologues américains.
Oui, ce qu'on avait hier, c'était un sénateur républicain très influent, je t'en parlais, qui disait que, selon lui, l'administration Trump pourrait relativement bientôt abroger ces fameux tarifs sur l'acier et l'aluminium canadien et que ça serait une partie intégrale du processus de ratification du nouvel accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Donc, ce que le sénateur disait en question, c'est que tant et aussi longtemps que ces tarifs-là sont en place, ça va être excessivement difficile pour le Congrès américain de donner son aval à l'accord qui viendrait remplacer l'ALENA. Et là, aujourd'hui, c'est un membre de l'administration Trump qui est venu appuyer ces propos-là, et pas n'importe quel membre, le secrétaire au Trésor du président Steven Mnuchin. Important, Paul, dans la mesure où, de un, le secrétaire au Trésor, bien, techniquement, c'est le membre du cabinet le plus important en matière de politique intérieure, et de deux, ce secrétaire-là en particulier, M. Mnuchin, c'est un des très rares à s'être maintenu dans les bonnes grâces de Donald Trump. En fait, il fait partie de la minorité du cabinet original qui est là depuis janvier 2017, qui n'a pas été démis de ses fonctions, qui n'a pas quitté. Et aujourd'hui, ce qu'il est allé dire essentiellement, c'est que lui aussi, il voyait à court terme une levée des droits de douane. Oui.
Il faut dire qu'il y avait eu une montée de boucliers des États concernés et qui ont besoin de l'acier et de l'aluminium canadien, qui avaient dit, écoutez, c'est d'abord nous, les Américains, qui allons payer le prix avec ces tarifs imposés sur les deux produits.
Exactement. La pression ne vient pas simplement du gouvernement canadien et du gouvernement mexicain. Elle vient aussi de plusieurs élus, incluant plusieurs élus républicains au Congrès qui disent depuis des mois au président, c'est assez, il faut que ça saute. Je te mentionne aussi rapidement le point de presse que la ministre Freeland, donc la ministre canadienne des Affaires étrangères, vient de donner. Elle a été très, très avare de détails, mais il y a deux points sur lesquels elle est revenue à plusieurs reprises. Premièrement, évidemment, elle veut voir ces tarifs-là sur l'acier et l'aluminium canadien levés au PC en bon français. Et deuxièmement, et ça c'est intéressant, et ça aussi ça renvoie à quelque chose dont je te parlais il y a quelques semaines, les normes du travail au Mexique. On sait, c'est la demande principale que font les démocrates à la Chambre des représentants aux États-Unis pour considérer, appuyer le nouvel accord de libre-échange. On doit hausser les normes du travail pour lutter contre le « cheap labor ». Madame Freeland qui a dit que le nouveau gouvernement mexicain qui a été élu à la fin de l'année dernière était dédié à apporter ces changements-là et qu'elle les appuyait. La question, c'est de savoir si ça voit le jour. Est-ce que ça va être assez pour convaincre les démocrates à la Chambre d'appuyer l'accord de libre-échange?
Un autre sujet important, dans le sud des États-Unis, l'Alabama, qui est sur le point de devenir l'État qui va se doter de la loi la plus restrictive en matière d'avortement.
Dès qu'on mentionne l'avortement, évidemment, on parle d'un sujet chaud, d'un sujet controversé. Là, ce qui s'est produit en Alabama, c'est que les deux chambres de l'Assemblée législative, la Chambre des représentants et le Sénat de l'Alabama, viennent de passer ce qui deviendrait la loi la plus restrictive en matière d'avortement. Ce qui est intéressant, c'est que la seule chose qui manque pour que ça devienne loi, c'est la signature de la gouverneure, donc une femme qui pourrait, et c'est une républicaine, qui pourrait sous peu donner son aval à une loi qui permettrait d'emprisonner, en fait, qui ferait en sorte qu'on emprisonnerait pour des peines allant de 10 à 99 ans, à peu près tout médecin qui effectuerait un avortement. Et voici où ça devient extraordinairement controversé, Paul. Le projet de loi actuel ne contient aucune exception dans les cas de viol ou d'inceste. Autrement dit, une femme qui est victime d'inceste ou de viol et qui tombe enceinte suite à ce rapport sexuel-là serait contrainte d'avoir le bébé en question. Donc, ça t'illustre un petit peu le clivage qu'on a aux États-Unis parce que d'un côté, tu as des projets de loi comme celui qu'on voit en Alabama qui vont très, très loin dans une direction. Et tu te rappelleras, c'est aussi, Paul, on s'en parlait ensemble il y a à peine quelques semaines, tu as d'autres États, tu as eu un gouverneur sortant qui est encore en place en Virginie qui avait évoqué la possibilité de légaliser le fait de tuer un bébé qui vient d'être mis au monde, donc permettre l'avortement même après la fin de la grossesse. Donc, on a une société qui est polarisée.
Très, très polarisée.
Et ça, c'est un bel exemple.
Oui, et on verra ça parce que pour l'entrée en vigueur, il faudra attendre 6 mois. En Alabama.
Et ça va être contesté de toute façon devant les tribunaux.
Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Raphaël Jacob.